au comble de l'affolement. « Va prendre une douche, » répète-t-il. Puis, voyant que je tremble toujours, il me pousse dans la salle de bain et ajoute « C'est fini. Je ne te frapperai plus. Va te laver. » Je prends une douche, laissant l'eau couler sur mon corps meurtri comme pour me laver de mes souffrances. J'essaie d'étouffer mes sanglots de peur d'attiser à nouveau sa colère, mais j'ai du mal à m'en empêcher. Il finit par me sortir de la salle de bain, tremblante. Une fois que je suis allongée près de lui, Moubarak me viole en guise de consolation, non sans oublier de me répéter que c'est de ma faute s'il me frappe, que je réussis toujours à le mettre hors de lui. Il m'exhorte à être plus consciencieuse dorénavant et ajoute qu'il me pardonne. Dans un bâillement, Moubarak conclut « N'y pense plus. Je me rends compte que je t'ai vraiment fait peur. Je ne te frapperai plus. C'est juste que je suis très énervée ce soir. C'est fini. Dors, ma chérie. Je t'aime, quoi que tu penses. » Je ne parviens pas à fermer l'œil. À côté de moi, le bras négligemment posé sur mon corps, mon époux dort d'un sommeil apaisé. Mon dos et mon cou, endoloris par les coups, sont de plus en plus douloureux. Cette nuit, je prends conscience du danger que je cours. Si je reste à le regarder, à le subir sans rien faire, Moubarak va finir par me tuer. Sa tendresse, après un déchaînement de violence, s'apparente à un scénario que je connais bien et qui ne me trompe plus. Ce sera toujours pareil. Il me frappera, fera semblant de le regretter, promettra de ne plus le faire, jusqu'à la prochaine fois. Je le sais. Moubarak ne changera pas. Je pourrais me plaindre, mais on me demandera toujours de patienter. Encore un peu. Qui a de la patience ne le regrette pas, me rappellera-t-on. Et si un mauvais coup m'achève, ce ne sera que la volonté d'Allah. Avant l'aube, j'ai pris ma décision. Malgré la douleur, je réussis à me lever et je sors en silence de la chambre que je prends soin de refermer délicatement après moi. Il fait encore nuit. Le muezzin vient de psalmodier le premier appel à la prière. Au Zaouleru, le gardien dort d'un sommeil profond, ronflant à tout rompre. Je revais mon manteau noir et, sans rien prendre de plus, ouvre silencieusement la porte arrière pour m'engouffrer dans la nuit noire. Je n'ai aucun plan précis. Je ne sais pas où aller. Je sais seulement où je ne dois surtout pas me rendre. Ni ma mère, ni mon père, ni mes oncles ne me seront d'un grand secours. Je n'ai pas d'amis, pas suffisamment d'argent, et nulle part où me réfugier. Mais c'est bien ce qu'il faut que je fasse. Partir au plus vite. Loin d'ici, loin de tout. Avant le lever du jour, je dois mettre le plus de distance possible entre Moubarak et moi. Entre cette concession et moi. 6. Mon père se lève brusquement de son fauteuil. Il est fou de colère et pointe vers moi un doigt accusateur. Dis-moi la vérité maintenant. Tu n'as pas intérêt à me mentir, fille de pute. Je sais que tu es allée à Gazaoua. Qui connais-tu à Gazaoua? Un homme, c'est ça? Maintenant, ma fille a des amants.
Non, Baba, c'est juste que...
C'est ta mère? C'est elle qui t'a entraînée? Hurle-t-il.
Non.
D'accord. Je vous obligerai à me dire la vérité, fait-il tremblant de fureur. J'ai déjà assisté aux colères incontrôlées de mon père, mais jamais je n'ai vu son visage aussi hargneux. Son indignation est telle qu'il ne me donne pas la possibilité de m'expliquer, de lui raconter tout ce que je subis de la part de Moubarak. Je vais te tuer. Pendant des jours après ma fugue, ma famille m'a cherché avant de découvrir par le plus grand des hasards que j'étais à Gazaoua, une localité proche de Maroua. Le jour où j'ai déserté la maison conjugale, sans destination précise, je n'avais guère imaginé les conséquences de ma fugue, ni pour moi, et encore moins pour le reste de la famille. N'ayant aucun plan dans la tête, j'ai pris le premier bus venu. Dans les ruelles de la petite ville, je suis entrée dans la première concession sans me poser plus de questions. Pendant un mois, j'ai partagé le quotidien de mes hôtes. Une famille rurale dont l'épouse, Djeba, gentille et accueillante, m'a offert amitié et protection. Sans me poser des questions qui pouvaient s'avérer embarrassantes, elle a soigné mes plaies, a fait bouillir des écorces médicinales qu'elle m'a exhorté à boire. L'attention que Djeba et les siens m'ont accordée me faisait temporairement oublier mes déboires.